5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Et voici Orion, les chemins de l'espace avec Gérard Rivet et Jean-Michel Vialli.
Alors aujourd'hui, Jean-Michel, direction la Station Spatiale Internationale.
Oui, bonjour Gérard. Donc nous allons prendre un petit peu d'élévation à 400 km au-dessus de nos têtes.
Alors on va essayer de passer en revue pourquoi une station internationale et à quoi ça ressemble, vu de près. Et puis on dira également quelques mots sur les équipages qui se sont succédés jusqu'à présent. Et j'annonce tout de suite à nos auditeurs que tout ce qui concerne la vie à bord, les expériences, tout cela fera l'objet d'une prochaine émission sur l'ISS. Donc cette émission aura une suite. Alors pourquoi une ISS, Jean-Michel ?
Alors un petit peu d'histoire. Donc à l'issue de la conquête lunaire par les Américains, donc les Russes avaient perdu la bataille, on va dire, elles se sont tournées tout de suite vers les constructions de stations autour de la Terre. Donc les stations Salyut, donc qui ont été construites, puis la station Mir, qui est la plus connue. Puisqu'elle a fini sa vie en 1999, donc les Russes ont développé dans l'espace. De leur côté, les Américains donc voulaient lancer une station après leur module Skylab, qui était une petite station orbitale, voulaient se construire une station donc pour répondre un peu à cette station russe Mir, et donc ils avaient parlé de la station Freedom.
Freedom
qui veut dire liberté.
Et Mir qui veut dire paix.
Donc tout ça, c'était un petit peu dans la compétition spatiale entre URSS et les USA. Et puis il y a eu donc la chute de l'URSS, la désintégration un peu on va dire de l'Empire soviétique à l'époque. Et donc le président Reagan a énoncé un petit peu un principe de construire d'une station internationale.
Travailler ensemble. Donc cette première période, j'allais dire d'habitation de l'espace. Enfin, en tout cas autour de la Terre, a duré quand même plusieurs années et chacun de son côté s'est employé à tourner autour de la Terre.
Alors chacun de son côté s'est employé autour de la Terre. Il faut dire que du côté français aussi, on a quand même des astronautes français qui ont volé avec les Russes. Donc on a bien le plus connu de nos astronautes, c'est Jean-Luc Chrétien, mais je parlerai aussi de Claudie Aignoret, voilà.
Ou d'autres qu'on a eu l'occasion de rencontrer.
Ou d'autres qu'on a dû, notamment Léopold Dehart.
Donc voilà. Sur l'origine du projet, finalement, l'humanité travaille main dans la main, c'est quand même un vrai rendez-vous dans l'histoire. Ça.
Alors un vrai rendez-vous dans l'histoire. Alors, quelle station, pourquoi l'appeler ISS au début station Alpha, puis qui est devenu, plus vu que tous les pays participaient un petit peu ensemble, au départ une quinzaine de pays. Donc c'est devenu l'ISS, International Space Station, la Station Spatiale Internationale.
Voilà. Donc ça, le début finalement de ce projet, on le date à quelle époque ?
Alors, le 20 novembre 1998, puisque c'est une fusée Proton russe qui a lancé le premier module Zarya.
Alors, si on se fixe sur cette station spatiale internationale, le début finalement du projet date de quand ?
Alors, le début du projet, on va dire, c'est dans les années 90, Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, avec le premier module lancé en 98, et très vite, le mécano va s'assembler.
Alors, en 98, voilà, il se passe quoi? On construit l'objet, en fait.
Une fusée Proton russe lance le module Zarya.
Oui.
Hein? Donc ensuite, les Américains vont lancer le module Unity, l'Union, hein? Et puis il y aura Harmony, Destiny, et puis les Russes vont lancer Svevda, voilà. Et ensuite, donc plus tard, les Européens lanceront le module Columbus, qui est notre laboratoire européen. Les Japonais lanceront le module Kibo. Les Canadiens vont participer avec le Canadarm, le bras canadien, le bras qui permet de saisir un petit peu les capsules qui s'approchent de l'ISS pour le ravitaillement, par contre. Donc tout ça va se monter progressivement grâce aux fusées russes et grâce aussi aux navettes spatiales américaines. Donc ces navettes qui étaient d'immenses cargos transporteurs qui vont permettre d'assembler cette station qui fait à peu près 500 tonnes et qui a la taille d'un terrain de football.
D'un terrain de football aujourd'hui. Voilà. Donc on a parlé de module.
Oui.
En fait, un module, c'est quoi? C'est un lieu qui peut être habité et qui est la propriété ou qui est partagé par les différents pays qu'on a évoqués ou bien...
Propriété et partagé.
Et partagé en même temps.
Voilà. Alors c'était très difficile parce qu'imaginez par exemple un exemple électricité. Les prises russes et les prises américaines pour se connecter, pour brancher les appareils, sont pas du tout pareilles.
Et donc on s'est entendu.
Ça a fait l'objet de discussions interminables et il a fallu s'entendre. Bon, les langues aussi, donc les langues parlées, c'est le russe et l'anglais, ça c'est obligatoire, incontournable pour chaque astronaute. Voilà. Donc ensuite, tout cet équipement va se faire progressivement. Les panneaux solaires, il y a 16 panneaux solaires. Il y a la poutre, la grande poutre, le truss, donc qui fait 109,50 m.
C'est ce qui tient la structure, en fait.
C'est ce qui tient la structure.
Reviens sur ces modules pour nos auditeurs, quand même. C'est un lieu d'habitation. C'est quoi? C'est un mobilhome? C'est plus grand? C'est plus petit?
On va dire que ce sont des grosses boîtes de conserve qui sont ajoutées les unes aux autres. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, l'avoir vu, hein, donc sur des images, bien sûr que j'aurais aimé y aller, hein, pour avoir vu des répliques aussi au sol, hein, c'est pas très confortable. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, puisque là-haut, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Hein. On est dans l'espace, on est en état d'apesanteur, voire d'impesanteur.
Et on retiendra qu'ils sont quand même à l'étroit.
Hein, ils sont à l'étroit. Donc c'est vrai qu'avec une simple petite impulsion en état d'apesanteur, on va avancer très vite. Alors on en parlera tout à l'heure avec les astronautes qui sont allés là-haut.
Ouais, alors ce travail de construction, il va durer plusieurs années.
Il va durer plusieurs années, on va dire pratiquement jusqu'à l'arrêt des navettes hein, en 2011.
Alors, cette station spatiale se construit module après module, chacun le sien, mais on partage tout.
Oui.
Donc, après cette phase de construction, ou bien à un certain moment, puisqu'elle n'est peut-être pas terminée d'ailleurs à l'heure où on parle, c'est évolutif tout ça.
C'est évolutif. Alors, terminée, pas terminée, elle est quand même bien... Elle a déjà bien vécu, puisqu'actuellement aussi, on parle de son arrêt. Alors, vous voyez, donc actuellement, on est à peu près sûr d'avoir les financements jusqu'en 2020.
Donc, premier module en 98, au début des années 2000, les premiers hommes vont y aller pour, non plus pour construire, mais pour y vivre, y travailler.
Pour y vivre, hein, avec des équipages qui vont rester à deux, voire trois, voire un petit peu plus, avec des séjours très courts, 140 jours au début. Et au début, et maintenant, donc, on est sur des missions qui font 5 mois et demi, 6 mois.
6 mois et demi. Combien de personnes à bord? Au début, 2-3 personnes, c'est ça?
Alors oui, 2-3 personnes. Ça a été très variable. L'avantage, c'était les navettes spatiales américaines qui permettaient de monter beaucoup de monde, puisque le cargo russe Soyuz permet de monter simplement 3 astronautes. ou de redescendre trois astronautes, les navettes pouvaient monter beaucoup de monde. Hein.
Donc il y a eu, aujourd'hui ils sont 6 je crois.
Ils sont 6, il y a eu des périodes où il y a eu 11 personnes.
11 personnes donc dans cette station.
Grosse ambiance.
À l'étroit. Mais,
à l'étroit, mais bon.
Mais communion oui, internationale.
Fraternelle.
Voilà, on peut dire que la société scientifique et de l'espace en particulier a dépassé pratiquement. C'est assez rare d'ailleurs à souligner que on a pu dépasser effectivement toutes ces barrières politiques, d'État, etc., d'histoire.
Alors ça, c'est important à dire. Et puis pour avoir rencontré plusieurs astronautes, ils ont tous le même langage là-dessus. Hein, là-haut, de là-haut, il n'y a pas de frontières.
Et oui, ça ramène à beaucoup d'humilité.
Ça ramène à beaucoup d'humilité.
Alors, sur le grand mécano, on a utilisé ce terme tout à l'heure, il est évolutif, donc on a évoqué sa taille, un terrain de football, un grand terrain de football, son poids...
sa masse, on va dire. Hein,
oui, sa masse, voilà. Plus exactement sa masse. Les modules, il y en a combien aujourd'hui?
Alors, les grands modules, donc Cocterus, Césarias, Vebda... Hein, avec donc tous les ports d'accès. Les ports d'accès, c'est-à-dire c'est où les vaisseaux vont pouvoir venir s'accrocher. Je pense donc au Soyouz actuellement, qui permet de monter et de descendre les astronautes vers la station. Et actuellement, c'est le seul outil...
Le seul véhicule.
Le seul véhicule de transport hein, voilà. Qui existe, puisque du côté américain, il n'y a rien pour l'instant.
Alors, la relève, on va dire,
la relève,
en homme.
3x3.
En homme ou en femme. Parce
en homme ou en femme, parce qu'actuellement, et c'est à souligner, parce que les Russes ont envoyé une femme le mois dernier.
Et puis, il y a le ravitaillement.
Et le ravitaillement. Alors le ravitaillement, ben à quoi il sert? Eh ben amener bien sûr de quoi vivre, amener des expériences, amener du carburant. Et ce point-là est important parce que la station elle est pas très haut, hein, à 400 km au-dessus de nos têtes, c'est pas très haut. Donc il y a toujours une attraction terrestre résiduelle, ce qui fait que cette station va perdre à peu près 200 mètres d'altitude par jour. Donc toutes les périodes, bon, qui sont pas tellement définies, hein, on va dire par semaine, soit par mois, on va la rebooster un petit peu de carburant pour la remonter. Donc ce qui fait qu'elle va descendre peut-être à 380 km et elle va remonter à 420 km. Voilà. Donc il y a une attitude comme ça de variable. Hein,
voilà,
on va dire.
On est dans un voilà.
Mais on reste toujours à la même vitesse puisque on est dans la vitesse de libération des 28 000 km/h. Hein. Donc on reste toujours à la même vitesse. Hein. Ça varie pas beaucoup.
Donc quand même, si on ne fait pas cette correction, j'allais dire d'altitude, ça veut dire que cette station, ce terrain de football, nous tomberait dessus.
Exactement, il descendrait, voilà. Voilà. Alors aussi, la station a du carburant parce que ben là-haut dans l'espace, il y a des objets aussi qui flottent, il y a des débris, il y a des choses.
On a vu ça dans des films, non pas des films de fiction, mais qui nous montrent effectivement toutes ces menaces de l'espace et de ces objets qui vont très vite d'ailleurs. Mmh.
Alors, ça va très très vite, puisque donc la station est prévue donc pour être évacuée en cas de danger. C'est arrivé plusieurs fois où les équipages ont rejoint le vaisseau Soyouz pour éventuellement redescendre sur Terre. Donc, pour éviter les objets, donc on a quand même de la visibilité, hein, grâce à tous les instruments de bord, de voir s'il y a danger de collision avec un objet inhabité, donc de pouvoir descendre ou remonter la station et d'éviter l'objet.
Oui, enfin, c'est quand même du pilotage minutieux parce que à 8 km seconde.
Minutieux, surveillé de là-haut, surveillé
d'en bas.
Avec les énormes stations au sol, que ce soit aux États-Unis, en Russie et dans d'autres pays du monde.
Thank you.
Alors, il y a du danger quand même autour de cette station internationale. L'espace, c'est quand même un univers, n'est pas un univers tranquille.
C'est pas un univers tranquille, hein, comme je venais de vous le dire. Il y a des débris satellitaires qui peuvent être rencontrés par la station, voire des risques de collision. Mais il n'y a pas que ça.
Alors, il y a en particulier tout ce qui est du domaine des radiations, des vents solaires, par exemple.
Radiations, vents solaires, micrométéorites. Donc, on sait que les panneaux solaires de la station spatiale internationale sont criblés d'impacts de micrométéorites. Ça ne les empêche pas de fonctionner.
Ouais. Et sur la partie radiation, comment sont protégés les équipages lorsqu'il y a une menace importante?
Enfin, alors les équipages sont
en cas de grande activité du soleil, par exemple.
Ouais. En cas de grande activité solaire, tous les modules de la station spatiale internationale sont protégés. Donc il y a plusieurs couches d'épaisseur, d'isolant, de tout ce qu'on veut. C'est une maison très très bien isolée.
Et les costumes entre guillemets, comment sont-ils protégés dans leurs combinaisons? Est-ce que c'est pris en compte, effectivement?
Alors, lorsqu'ils sont à l'intérieur, pas de souci, la tenue est d'intérieur.
Lorsqu'ils sortent.
C'est le survêtement. Ouais. Lorsqu'ils font les EVA. Les EVA, c'est ce qu'on appelle les extra-véhiculaire activity. Hein. Donc là, ils vont s'habiller avec des combinaisons, soit russes, soit américaines. Donc, le temps d'habillement est long. Donc, et une fois que l'astronaute est habillé, il va passer dans le sas, dépressurisé, on ouvre la porte extérieure, il va pouvoir sortir, effectuer son travail. Donc en général, ces sorties extravéhiculaires sont longues. Je pense à Philippe Perrin, astronaute français, qui a raconté une sortie qui durait un petit peu plus de 7 heures. C'est long, 7 heures dans l'espace. Imaginez-vous, vous êtes dans l'espace pendant 7 heures et vous allez tourner 1h30 de lumière, 1h30 de nuit, 1h30 de lumière. Et là, il faut être concentré. Et Philippe Perrin raconte une anecdote, puisqu'il avait son chausson qui lui faisait mal aux pieds. Donc, et quand il est sorti, il a dit à son commandant de bord, je sais pas si je vais tenir le temps. Et le commandant de bord lui a dit, parce que là, il y a des règles très strictes, il lui a dit, tu sais pourquoi tu es là, il faut faire le travail. Il lui a dit d'une façon certainement un peu plus sèche, hein. Voilà. Mais Philippe Perrin nous le rapportait comme ça. Et, il a fait son travail. Et il a réussi à aller jusqu'au bout. Il a eu mal aux pieds pendant quelques jours après. Alors, mal aux pieds, je viens d'en parler avec l'anecdote de Philippe Perrin.
Mais pour un piéton de l'espace.
Mais je peux pas m'empêcher de vous dire que tous les astronautes qui sont là-haut, donc sont en survêtement et en chaussettes, et pour se tenir, parce qu'en état d'apesanteur, c'est pas facile. Alors surtout, tous les côtés de la station, comme je vous l'ai dit, à droite, à gauche, en haut, en bas, il y a des espèces de petites barres qui sont fixées au sol, et où les astronautes s'accrochent les pieds pour se tenir, pour qu'ils aient les mains libres, pour travailler. Alors ce qui va se passer, c'est que le premier jour, tout va bien, mais le deuxième jour, à force en chaussettes d'accrocher les pieds sur ces barres, ils prennent de petits coups, de petites ampoules, mais ils le racontent beaucoup mieux que moi.
Alors, un mot sur les équipages. Donc, il y a beaucoup de monde maintenant qui est passé dans l'ISS.
Oui.
Un club.
On note plus de 1000 astronautes qui sont partis là-haut, donc le chiffre a dépassé les 1000. Hein. Mais aussi, il y en a qui sont allés plusieurs fois. Donc, ce qui fait que si on reprend ceux qui sont allés deux, voire trois fois, on est un petit peu plus de 500.
Plus de 500. Donc, les rotations sont fréquentes. Quand on part pour combien de temps? Est-ce que tout le monde part pour le même temps, par exemple?
Alors, les rotations, au début de la construction de la station, comme je vous l'ai dit, il y avait les fusées russes, donc avec le Soyouz, hein, instrument excessivement fiable. Vous aviez les navettes spatiales, qui sont très fiables à la fin, hein, bien sûr, mais énorme gouffre à dollars, hein, donc qui ont été arrêtés à cause de ça, mais qui permettaient de faire des rotations relativement facilement. Il y a des gens qui sont montés pour 8 jours. Actuellement, vu qu'on n'a que le vaisseau Soyouz, les missions vont être de 5 mois et demi, 6 mois.
Pour des raisons de lanceurs, enfin
pour des raisons de lanceurs de véhicules. Ouais. Donc, on pense que d'ici un an ou deux, du côté américain, il y aura quelque chose. Mais ça se met en place. Hein.
Il y a quelque chose encore à apprendre sur le temps passé dans l'espace ou est-ce que les expériences sur les hommes sont faites?
Il y a des gens qui ont passé plus de 686 jours, je crois que c'est exactement le record. Donc, d'un astronaute qui, lui, est parti Union soviétique et qui est revenu russe. Il a changé de drapeau pendant ça. Voilà. Donc, c'est les missions les plus longues, ça. Mais ces hommes-là, donc actuellement, compte tenu du lancement, compte tenu du coût, Le coût est énorme de lancer des hommes. Il faut aussi qu'il y ait une rentabilité, mais ça on en parlera, comme vous l'avez dit, dans une prochaine émission.
Dans une prochaine émission. Un mot quand même sur la composition des équipages. Donc, station internationale, équipages internationaux. Pourquoi choisir un Français, un Allemand, un Japonais, etc. Alors, comment ça se passe? Est-ce que
on va dire que la partie la plus importante, on l'a dit, c'est la construction. C'est côté russe et côté américain.
Oui.
On va dire que l'espace spatial européen et les Japonais, on a une petite participation. Je crois que la participation européenne, c'est 8%. Donc, ça va faire un homme ou une femme tous les 24 mois.
Et ces 8% se répartissent sur les pays européens?
Se répartissent sur les pays européens.
Quels sont les pays les plus présents?
Alors, on va dire l'Allemagne, l'Italie.
L'Italie
est excessivement présente. L'Italie participe beaucoup, on va dire, dans l'espace spatial européen.
Dans la recherche physique nucléaire également, au CERN, je me souviens avoir effectivement retenu cette idée que les Italiens étaient plus présents que les Français,
voilà,
par exemple.
Hein, parce que, bon, je pense sur les dernières rotations des équipages, vous aviez Paolo Nespoli, Luca Parmitano, qui deux Italiens qui sont partis. Et l'année prochaine, ce sera Samantha Cristoforetti, donc une femme italienne. Femme extraordinaire, puisqu'elle parle 7 ou 8 langues, une sportive rompue à tout exercice. Enfin, c'est vraiment des gens extraordinaires.
Donc, c'est d'abord des gros bataillons américains et russes.
Oui.
Et puis, à chaque fois, une ou deux personnes européennes ou asiatiques.
Suivant les entraînements, suivant
les programmes.
Ouais. Parce qu'avant de partir dans l'espace, l'entraînement minimum, c'est 24 mois.
Ouais. Alors, c'est quoi la difficulté pour un homme pour aller vivre dans l'espace? Il y a une sélection, j'imagine, très, très dure.
Sélection médicale, sélection physique, sélection, il faut savoir parler deux langues. Prochain astronaute, le russe et l'anglais, bien sûr, en plus de sa propre langue. Ouais. C'est pour ça que je disais deux langues. Donc, sélection vraiment importante. Je pense à Thomas Pesquet, futur astronaute français.
C'est le prochain à partir?
2016, peut-être, 2017.
Oui, c'est lui.
Il est sur la liste.
Il est sur la liste.
Il y a un Allemand avant, hein. Voilà. Mais si vous voulez, donc Thomas Pesquet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer deux fois, qui disait qu'il avait beaucoup de difficultés à apprendre le russe. Hein, mais bon, il le maîtrise maintenant. Et qui nous parlait de son expérience. Je me souviens d'une anecdote qu'il racontait à Toulouse, à la Cité de l'Espace. On avait fait l'entraînement. On avait fait de la survie, on avait fait des tas de choses, on était crevés. Et il y a un hélicoptère qui vient nous récupérer au large de la Sardaigne, là-bas. Et donc, on était tous les gens qui étaient entraînés. Vous savez, les hélicoptères militaires, ils ont une trappe pour larguer les hommes, là. On était tellement fatigués qu'on nous avait tous assis sur la trappe.
Ça mérite d'être efficace.
Et au moment où on essayait de récupérer un petit peu, de reprendre un petit peu notre souffle, dire après une semaine très éprouvante, l'hélicoptère ouvre la trappe et nous lance dans la mer. Donc tout ça pour que les astronautes soient parés à toute éventualité, à tout risque. Vraiment, ce sont des hommes qui sont exceptionnels et bien sûr qui tous ont un très grand calme. Parce que quand on est là-haut, il ne faut pas se disputer. Et les conflits, ils doivent être réglés d'une façon le plus facilement possible.
Alors Jean-Michel, avant de terminer cette émission, un mot quand même sur la transmission, parce que beaucoup d'écoles d'ailleurs montent des programmes avec la NASA pour pouvoir communiquer avec les astronomes de la station internationale.
Alors tout à fait, donc des écoles, d'écoles primaires, des lycées, ont monté des projets, donc de pouvoir avoir un contact radio avec la station spatiale internationale, de préférence quand on a un astronaute français qui tourne là-haut, hein. Et donc, je connais beaucoup d'écoles en France qui ont ce contact-là. Nous, astronomes auvergnats, nous avons eu un contact avec Luca Parmitano l'an dernier, lors des journées des Nuits étoilées d'Auvergne à Châtel-Guyon.
Avec un collège de Combrailles.
Avec un collège des Combrailles, voilà. Alors je précise que ces hommes qui sont là-haut, ils sont pas inaccessibles et qu'on peut les rencontrer très très facilement. Bon, souvent ils viennent donner des conférences, souvent ils participent à des missions scientifiques où ils sont très très abordables. Bon, l'endroit le plus facile pour les rencontrer, c'est certainement la Cité de l'Espace à Toulouse, où régulièrement chaque année, il y a des invités, donc ils viennent donner une petite conférence et puis avec lesquels on peut discuter. Et les moments les plus intéressants, c'est à la fin de la conférence, lorsqu'on les rencontre individuellement et on peut échanger quelques mots avec eux. Ce sont des hommes excessivement passionnants.
Alors, sur cette première émission sur la Station Spatiale Internationale se termine. Un mot quand même pour... on la voit passer régulièrement dans nos ciels d'hiver et d'été.
On la voit passer, alors des fois dans le ciel du soir, des fois dans le ciel du matin, des fois pas du tout, puisqu'elle a une orbite autour de la Terre qui n'est pas parallèle un petit peu à notre orbite française. Hein, voilà. Mais bon, elle passe en ce moment... Donc au mois d'octobre, là on est actuellement dans les mois où elle passe dans le soir. En novembre, on la verra un petit peu dans les ciels du matin.
Et ça ressemble à quoi ? Ça brille beaucoup ?
Alors une grosse boule lumineuse. Une grosse voilà. boule lumineuse qui
plus
passe.
Plus qu'une étoile.
Plus qu'une étoile. Donc vous avez des sites internet qui vous donnent les passages. Notamment, je passe à un site qui est facilement accessible, c'est Calsky, calsky.com. Donc sur ce site, vous avez tous les horaires de passage. Et en ce moment, comme elle passe, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que quand je la vois passer le soir, eh ben, le commandant de bord actuellement, c'est Maxime Suraeff, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2011 lors du cinquantenaire de Gagarine. Et un homme charmant. Charmant, vraiment, garde un excellent souvenir.
Alors, on doit quitter ce grand mécano de la Station Spatiale Internationale. L'émission se termine. Peut-être une recommandation de lecture pour nos jeunes amis et peut-être les moins jeunes.
Alors, tous les livres sur l'espace. 50 ans d'aventure spatiale du CNES, un gros pavé. Vous avez plein de livres sur l'espace, donc allez en librairie, vous trouverez certainement quelque chose de bien. Il y a énormément d'écrits qui ont été faits sur l'espace. Donc tous les livres qui sont patronnés par le CNES, les astronautes aussi ont écrit leurs livres. Histoire d'espace de Jean-François Clairvoy aussi est très intéressant, parce que Jean-François Clairvoy a passé beaucoup de temps dans l'espace. Et son livre raconte bien aussi la préparation des hommes de l'espace.
Et une dernière recommandation, le site d'Orion.
Notre site internet, www.orion43.fr, où nous mettons régulièrement en ligne les lancements des vaisseaux Soyouz actuellement et parfois quelques photos d'astronautes.
Jean-Michel, merci.
Merci Gérard.
À bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir.
Top. Allumage Vulcan. Décollage.